On est dans les années 60 et elle s'appelle encore Anne Bourguignon. Le film, il commence par un autre nom en revanche. Il y a une valse de Chopin et puis un carton, comme dans les vieux films, vous savez, un carton qui grésille sur lequel il est écrit ce nom, comme à la main, dans une écriture soignée en lettres noires sur fond blanc, c'est le titre du film. Et puis après, il y a son emploi du temps qui est gribouillé, latin, philo, déjeuner, grasse matinée, bref, on comprend qu'elle a 17 ans. Mais la musique ne s'est pas arrêtée et on la voit en fait qui est en train de jouer au piano, très appliquée. Elle a une robe rouge, un chignon sur le côté qui lui cache un petit peu son visage, plan moyen. Quand elle a terminé le morceau et qu'elle se lève, le plan n'a pas changé, si bien qu'on voit pas son visage mais on voit ses seins. Et c'est dans la glace qu'on l'aperçoit vraiment pour la première fois quand elle se recoiffe avant d'allumer une cigarette. Et puis le téléphone sonne, on va enfin entendre sa voix. Et la voilà qui impose ce rythme si singulier, vous savez, cette voix traînante qui s'envole dans les aigus mais qui garde toujours une certaine autorité. Ses airs raclés et ses inflexions un peu étonnées quand elle dit « Allô ? Bonjour ? Bonjour Nora, hein ?» Et tout est déjà là, c'est le génie d'Anémone dès les premières séquences, son tout premier film dont elle dira qu'il n'était pas fameux, un peu kitsch, un peu faux, mais dont elle a gardé le titre pour se faire un prénom. Désormais, ce sera Anémone et plus Anne Bourguignon.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. À quelle anémone pense mon invité d'aujourd'hui ce matin? Il est humoriste, auteur, il l'a mise en scène, Anémone, il y a 4 ans, dans un spectacle hommage à Sylvie Joly. Son autobiographie « Dites à mon père que je suis célèbre » est sortie hier. Bonjour Pierre Palmade.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Tout d'abord, si je vous dis Anémone, quelles images, quelles histoires, quelles phrases vous viennent immédiatement à l'esprit, vous?
Une voix, la voix. Une femme drôle, c'est avant tout une voix drôle. Et je crois que Anémone coiffait tout le monde au poteau avec sa voix drôle.
Quelle actrice est-ce que c'était pour vous? Qui l'avait mise en scène, hein, je le disais, dans ce spectacle que j'évoquais à l'instant, elle se croit toute jolie en hommage à Sylvie.
C'était quelqu'un, et alors elle me l'a confirmé donc, quand on a travaillé ensemble, c'est quelqu'un qui donnait l'impression de pas trop savoir pourquoi elle était drôle. Elle était un peu surprise. Elle me dit, moi, quand je fais rire, je m'étonne que les gens rient. J'entends les gens rire, mais je continue à parler. Donc, il y avait une. J'aime bien les gens qui sont pas qui ne cherchent pas qu'à être drôles. Elle cherche. On sent qu'elle cherche à dire quelque chose, et ça passe par cette voix et ses intonations et cette folie et cette sincérité aussi, parce qu'elle était transparente sur tout.
C'est vrai.
Elle était sans filtre.
Oui.
Écouter ses interviews, et moi je sais qu'en loge, elle nous racontait des choses interdites sur les gens du métier, sur les choses. J'étais même des fois gêné. Et puis elle passait de la politique à l'écologie, et voilà. Mais toujours avec cette voix voilà, qu'on a connue dans Thérèse du Père Noël, et puis qu'on a découvert dans Le Grand Chemin quand elle a voulu être tragique, et qu'elle a réussi à être tragique. Et là, alors là, elle savait tout faire, quoi.
C'est la première chose que vous écoutez, ou plutôt que vous regardez, ou plutôt que vous écoutez, tiens, la voix chez un artiste.
Chez une femme.
Ah bon?
Chez une femme, et moi qui suis admiratif et presque obsédé par les femmes drôles, et j'ai remarqué que c'était la voix qui faisait beaucoup. Regardez la voix de Muriel Robin, la voix de Jacqueline Maillan, la voix de Sylvie Joly, la voix de Florence Foresti, la voix de Valérie Le Mercier, ce sont des voix très particulières. Voilà.
La voix de Sylvie Joly, par exemple, puisqu'on parle d'elle. Anémone et vous partagez la même admiration pour elle. Elle a été l'une des bonnes fées qui s'est penchée sur votre carrière. Pierre Palmade, vous le racontez dans « Dites à mon père que je suis célèbre ». Quand vous l'avez rencontrée, cette voix, justement?
Sylvie Joly, petit, à Bordeaux, ma mère m'avait amené voir un de ses spectacles. Je devais avoir 14-15 ans, mais j'avais pas tout compris, parce que c'est quand même de l'humour pour adultes, et Sylvie Joly, fallait quand même avoir vécu pour comprendre. Et en 87, par contre, je suis allé la voir à Paris. Et là, ça a été la révélation. J'ai dit, je veux faire comme elle. Elle parlait à des personnages imaginaires. Elle parlait pas au public. Et j'ai voulu faire comme elle. Je lui ai dit tout de suite. Je suis allé la voir dans une loge. J'avais 19 ans. Et je venais de Bordeaux. Je lui ai dit, voilà, je voudrais faire comme vous. Elle m'a dit, bah, ça tombe bien. Je cherche un élève. Bah, à partir de demain, vous venez chez moi 2 jours par semaine.
Vous avez eu un drôle de culot quand même, Pierre Palmade.
Oui, mais c'était comme du somnambulisme. J'étais persuadé que elle me reconnaîtrait dans mon envie. Mais c'était pas un culot agressif. C'était une comme quand je regardais les pièces de boulevard. Je savais que j'étais fait pour le théâtre de boulevard. je me sentais moins seul. Voilà, quand j'ai vu Sylvie Joly, je me suis senti moins seul dans la vie. Moi qui cherchais un métier à faire, moi qui sortais du bac en me disant, mais mon Dieu, j'ai pas envie d'être un adulte qui va être directeur d'une, je sais pas quoi, après des écoles de commerce. Et Sylvie Joly, voilà. Quand je me sens moins seul en voyant quelqu'un, je sais qu'on est fait pour se rencontrer. Mais ça vaut en amitié et en amour. Il y a des gens, je me sens seul dans la vie. Je me sens seul. Mais à un point philosophique, quoi. C'est comme perdu dans l'espace. Et il y a des gens avec qui je suis plus seul. Ça m'est arrivé avec Muriel Robin, ça m'est arrivé avec certains amours dans ma vie. Et ça m'est arrivé avec Sylvie Joly.
C'est ça qu'elle vous a appris, en somme? Vous qui étiez son élève à plus être seul?
Non, ça c'était inhérent à notre rencontre. Non, Sylvie, elle m'a appris qu'il fallait pas chercher à être drôle, il fallait chercher à être vrai. On riait de la vérité d'un personnage parce qu'on le reconnaissait et pas d'une exagération comique. Ça venait après. Elle ne jurait que par la sincérité de la composition du personnage.
N'empêche, c'est intéressant, Pierre Pamlade, parce que ce que vous nous dites à travers cette histoire, c'est aussi que dans le métier de l'humour, dans la tradition du one-man show, tout est affaire de transmission. Qu'est-ce que vous avez essayé de transmettre, vous, à ceux que vous avez pris sous votre aile? Alors, je pense aux plus connus, à Camille Cotin ou Alex Lutz notamment, je pense à cette troupe de jeunes comédiens qui a lancé les destins, quand même. Qu'est-ce que vous avez essayé de leur transmettre, ça, justement?
Je leur ai transmis ce que j'aurais aimé qu'on me transmette, moi, quand je suis arrivé. C'est-à-dire, faut pas perdre de temps à imiter ses idoles. Faut faire confiance à ce qu'on est. Et souvent, on se dit qu'on n'est pas intéressant quand on est jeune. On se dit, oh non, si je suis moi-même, c'est pas intéressant. Mmh. Et aux comédiens de ma troupe, je cherchais à quel endroit ils étaient eux-mêmes. Et la seule chose qu'on ne pourra jamais leur voler, c'est quand ils sont eux-mêmes. Et pour qu'ils créent un personnage. Regardez Pierre Richard ou Louis de Funès, ou même souvent je donne Peter Falk, vous savez celui qui faisait Columbo.
Oui.
Et ben il a trouvé un personnage qui est proche de lui et il l'a trimballé toute sa vie dans plein d'histoires différentes. Et moi j'aime bien ces comédiens qui trouvent un personnage et qui gardent le même au lieu d'en changer et ils le transportent dans plein d'histoires. Et moi je les aiguillais pour qu'ils trouvent leur personnage qui leur ressemble le plus.
Et vous le vôtre, vous l'avez trouvé quand?
Et moi, le mien, je l'ai pas trouvé tout de suite parce que j'ai commencé justement en imitant Sylvie Joly, Jacqueline Maillan. J'imitais beaucoup de femmes, mais en essayant de rester masculin. Donc, ouais. On n'a pas vu tout de suite les filiations. Parce qu'à l'époque où je suis arrivé, tout le monde cherchait les remplaçants de Coluche, de Desproges, Le Luron, qui venait de mourir. Ouais. Donc, il y avait un désert du côté des hommes comiques. Et moi, j'arrivais en imitant des femmes. Enfin, l'humour de certaines femmes. C'est petit à petit. Je crois que quand j'ai commencé à jouer avec Michel Larocque, j'ai commencé à trouver mon identité. Dans les one man shows, j'ai commencé. J'ai eu du mal à me débarrasser de certains tics. J'étais pas très bon comédien au début. J'ai commencé tellement jeune, trop jeune, à 20 ans. Ça aurait été bien que je prenne quelques cours avant.
Mais à ce titre, le livre est très intéressant sur le métier de l'humour. Vous êtes un observateur assez impitoyable de la nouvelle génération d'humoristes qui fleurit, notamment grâce aux réseaux sociaux. Voilà ce que vous écrivez. Aujourd'hui, les comiques arrivent par vagues à coups de stand-up, de vannes d'actualité, d'apparitions sur Internet, de sketchs à la télé ou à la radio. Tant mieux s'ils arrivent tous à vivre de ce métier. Mais moi, j'y crois pas trop. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Je pense qu'il y a par génération, autant de génies qu'il y en a eu avant, mais je pense que beaucoup de gens qui ont un peu d'humour pensent qu'ils sont humoristes. Et vous savez, un mec sur quatre est drôle. On a tous une bande de potes et il y a le mec drôle de la bande. Donc ça voudrait dire qu'en France, un mec sur quatre est humoriste? Ben je pense pas. Parce qu'humoriste, c'est pas seulement un mec drôle. C'est un mec qui a eu un coup d'œil sur la vie. C'est un mec qui a du tragique en lui, qui est un peu torturé et surtout qui nous dit des choses. La partie drôle d'un humoriste, c'est que la partie émergée de l'iceberg.
Tu veux dire qu'il y a plein d'imposteurs, alors?
Non, c'est pas des imposteurs, mais c'est des gens. Parce qu'on a, et puis on leur a dit qu'humoriste, c'était chanteur dans les années 70, mais humoriste, À mon époque, d'ailleurs, j'ai assisté au début de l'industrie de l'humour, du one-man show. Avant, c'était très marginal, le one-man show, dans les années 70-80.
C'est là que vous avez contribué à le lancer en France aussi, il faut le dire.
Bah, on était 4-5, il y avait Bigard, il y avait Muriel Robin, il y avait Valérie Le Mercier, Danny Boone. On a commencé les vidéos d'humour, ça a été, l'industrie de l'humour a commencé, oui, avec nous, dans les années 90. Mais après, je crois que ça a été le miroir aux alouettes. Tout le monde s'est dit, moi aussi je peux le faire, et puis voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens drôles, mais que quelqu'un de drôle, ça ne, c'est pas forcément un humoriste. Un humoriste, c'est quelqu'un qui, d'abord, qui nous dit qui il est. Il y a beaucoup d'humoristes qui nous disent pas qui ils sont, ils nous disent juste qu'ils ont envie d'être célèbres.
Celle qui ne dit pas son nom dans cette émission et qui est jamais à une imposture près, sans doute la connaissez-vous, mon cher Pierre, c'est la culture et son actualité duplice, traîtresse et bal masquée. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 3 mai? Vaut mieux tard, Antino, que jamais. Hier, le Festival de Cannes a officiellement annoncé l'entrée en compétition de Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, 25 ans après la Palme d'Or de Pulp Fiction. Dans le même temps, Mektoub My Love Intermezzo d'Abdelatif Kechiche, qui devrait faire près de 4 heures, entre lui aussi en course pour la Palme. Les organisateurs, ont révélé avoir retenu 7 autres longs métrages en sélection officielle, notamment Lux Eterna de Gaspard Noé avec Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg, qui sera montré en séance de minuit. Le Grand Palais montre sa lune. Jusqu'au 22 juillet, le musée parisien consacre une grande exposition à l'astre et ses représentations dans l'art. De l'antiquité au contemporain, l'événement expose 190 œuvres et instruments scientifiques pour proposer un voyage à mi-chemin du réel, des fantasmes et de l'imaginaire, articulé en 5 parties, s'intéressant à l'Europe mais aussi aux civilisations africaines, arabes et extrême-orientales. L'expo réunit des artistes comme Kader Attia ou Mircea Cantor, mais aussi Chagall, Man Ray, Dali, Miro, Rodin. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le Grand Palais. Liberté, j'écris ton nom. L'éditeur égyptien Khaled Loufti a reçu le prix Voltaire 2019, créé pour honorer la liberté d'éditer face à la censure et l'oppression. Créateur des éditions Tamia Oker, Loufti a fait paraître de nombreuses traductions et œuvres originales en langue arabe, et notamment The Angel, The Egyptian Spy Who Saved Israel, d'Ouri Bar-Joseph, sur Ashraf Marwan, négociant d'armes proches du pouvoir d'El-Sisi. Un texte controversé à cause duquel il est accusé d'espionnage et a été condamné à 5 ans de prison. Total soutien. Enfin, Moshi Moshi, la folle journée. Le célèbre festival de musique classique créé à Nantes en 1995 s'exporte pour la 15e fois à Tokyo, au Japon. Pendant 3 jours, la capitale nippone va ainsi vibrer au rythme de 250 concerts articulés autour du thème des carnets de voyage. Le Forum international de Tokyo et d'autres lieux de la ville vont ainsi accueillir les chefs-d'œuvre des compositeurs voyageurs comme Haydn, Berlioz, Prokofiev, Tchaïkovski. Que c'est que chic! Et Pierre Palmade, invité de Boomerang ce matin pour un livre dans lequel vous dites tout, Pierre, tout.
Je dis tout ce que je sais, en tout cas. Il y a plein de choses que je sais pas, que je dis pas.
Des errances et des fulgurances. Et cette longue confession, moi je l'ai lu comme le récit d'un homme qui n'a jamais vraiment réussi à s'accepter, en fait, tel qu'il est. Chez vous, j'ai l'impression que l'acceptation de soi, c'est jamais aller de soi.
Non. C'est vrai que je suis pas sûr de bien m'aimer. Ça commence tout juste, l'acceptation de soi, et notamment je suis né dans des années où l'homosexualité n'était pas bien vue par la société, était très mal vue même, et donc j'ai pas mis de mots pendant mon adolescence à Bordeaux. J'ai pas mis de mots sur ce que je ressentais pour des garçons, donc j'ai cru que c'était une maladie sourde que j'avais en moi. Parce qu'on n'en parlait pas à Bordeaux. Il n'y avait même pas le mot d'homophobie. Il y avait même pas de. C'est juste que ça n'existait pas, l'homosexualité. Donc je suis arrivé à 20 ans à Paris en me disant bon, je vois bien que j'ai un petit problème avec le désir avec pour les garçons, mais c'est surmontable et on continuera avec les filles et on draguera la plus belle fille, on se montrera avec des filles et je serai hétéro, voilà. Et de temps en temps avec un copain, on se cachera dans une chambre.
Ça vous arrive de penser que si vous étiez né aujourd'hui, ou ne serait-ce qu'il y a 30 ans, vous n'auriez pas eu à passer par les mêmes épreuves,
par les mêmes doutes. Mon Dieu, oui. Qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui? Il faut tellement dire aux enfants, tu sais, plus tard, tu aimeras une fille ou un garçon, parce que à arriver à l'adolescence, quand on sent qu'on est homo, on croit qu'on est malade. Moi, je l'ai cru. Et je me suis détesté. Et ça rentre très profond dans le cerveau. Tant et si bien que même quand la société commence à l'accepter, on a la chance d'être dans un pays où le virage, la vision sur l'homosexualité change d'une manière mais historique.
Mais c'est vrai que ça a été pendant très longtemps un blasphème, une maladie ou un crime dans l'inconscient collectif.
Exactement. Et puis là, maintenant, le délit change de camp. Si quelqu'un traite quelqu'un de PD dans la rue, c'est plus le PD qu'on regarde, c'est l'homophobe. Maintenant, c'est lui qui a fait un délit. C'est celui qui insulte. Mais
ça vous a mis en colère, Pierre?
Sur moi?
Sur la société, sur les autres?
Je peux juste... Non, je regarde toujours plutôt le verre à moitié plein et je me dis, c'est génial, et surtout pour la nouvelle génération, c'est génial que ça y est, c'est ancré, c'est établi, c'est dans la loi, que c'est normal, c'est bientôt même dans la science, que c'est normal d'être homo, on va naître homo, comme on est blond, comme on est roux, comme on a les cheveux, comme on a les yeux bleus, et ben voilà, on est homo.
Et je vous pose la question de la colère parce que c'est un sentiment dont vous dites au début du livre qu'elle a souvent été un catalyseur de création pour vous, qu'elle vous a permis de...
Ah oui, de créer. Même sur ce sujet-là, j'ai écrit 2-3 sketchs de gens pas heureux avec leur homosexualité, mais dès que quelque chose me met en colère, c'est ça qui est l'étincelle pour un sketch. Un macho, un père de famille tout puissant dans sa famille, ça m'agace. Quand j'entends un mec qui parle mal à une femme dans un restaurant, ça m'agresse. Les petites hypocrisies racistes, le racisme quotidien, un peu insidieux, la bien-pensance, enfin tout ce qui me met en colère. Sur le moment, ça me met en colère. Et 3 semaines plus tard, un mois après, je dis ouh, celui-là. Je sais comment je vais le tuer, ce bonhomme, je vais l'imiter sur scène.
C'est intéressant parce que c'est une théorie de l'humour, en fait, que vous dessinez là, cette dualité. D'un côté, celui qui fait rire, de l'autre, celui qui pleure ou qui est en colère, souvent en cachette. À quel moment vous avez pris conscience, vous, de cette dualité, en vous?
Parce que c'est une façon élégante de montrer aux autres qu'on a tout compris. Enfin, qu'on a compris beaucoup de choses. Alors, on pourrait le faire d'une manière prétentieuse, mais non, on le fait avec un trait d'humour qui vous dit « Regardez ce que j'ai compris de vous. Regardez, je sais vous imiter. Regardez, ça fait juste 10 minutes que vous me parlez et je peux vous imiter. Parce qu'on a chopé. Parce que ce que j'entends quand quelqu'un parle, j'entends ce qu'il dit pas. J'entends le sous-texte. J'entends ce qu'il n'ose pas me dire. Dans une inflexion de voix, j'arrive à savoir s'il me ment, s'il me ment pas. » Je sais pas, je ressens, pas comme un médium, mais je ressens les névroses des gens et j'arrive à les reproduire.
Ça veut dire quoi faire votre palmade?
Faire mon palmade?
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que cette question?
C'est dans le livre.
C'est faire mon palmade, alors ça c'est plutôt, alors ça veut dire quand je veux faire un peu mon intéressant, je pense, parce que je suis aussi un enfant qui a besoin qu'on le remarque. Dans un groupe, il faut que je me fasse remarquer. J'ai très très peur de passer à inaperçu. Donc, faire son palmade, c'est se faire remarquer un peu à tout prix.
Pardon, mon colonel. Je peux vous voir entre deux manœuvres. Je suis le chasseur de la guérinière. J'ai été incorporé à quoi? Une semaine. Et j'avoue qu'il y a 2-3 petites choses dont j'aimerais vous entretenir. Tous les matins, il y a un type, faut absolument trouver qui c'est. Qui, sur les coups de 6 heures, joue de la trompette ou du saxophone, je sais pas ce que c'est comme instrument. Et ça réveille tout le monde.
Non, Liliane. Ox, ça n'existe pas. Non, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec le mot compte triple, mais ça n'existe pas. Je propose un programme ni de droite, ni de gauche, ni du centre, je précise. Je propose un programme va-et-vient, tourbillonnant, basé sur l'honnêteté et donc l'indécision. On verra quand je serai président.
Alors, c'est ça que vous appelez un joint?
C'est-à-dire que comme t'as tiré une tronche de 3 mètres de long pendant toute la soirée, T'as pas dit un mot pendant tout le trajet du retour, que tu viens de te coucher en chemise de nuit, d'éteindre ta lampe de chevet sans dire bonne nuit. Bêtement, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, elle me fait la gueule. Mais si tu dis que tu fais pas la gueule, alors là, ça va, je suis rassuré. Allô ? Non, c'est pas Julien, c'est Pierre. Non, non, je suis pas un connard, je suis juste la personne qui mangeait à côté de lui. J'ai juste décroché machinalement son portable, j'aurais pas dû.
Ça vous fait marrer, hein, Pierre Palmade ?
Bah, les extraits que vous avez pris, oui, ça me fait marrer. Mais plus le temps passe, plus j'ai... J'aime bien mes débuts.
Et pourtant, vous dites dans votre livre que des one-man shows, à partir de maintenant, il n'y en aura plus.
J'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de choses, presque tout en one-man show. Alors, les envies, ça va, ça vient, mais le dernier était très intime, celui que j'avais fait au rond-point. Là, je pouvais pas être plus nu. Après, il fallait que je m'arrache la peau. Mais je sais pas. J'ai un peu envie. J'ai plus envie d'être dans le showbiz des humoristes. J'ai vraiment envie de devenir un comédien classique qui va
ou
jouer.
Un conteur, vous dites.
Oui, un conteur. C'est vrai qu'un conteur, c'est pas quelqu'un qui doit être hystériquement drôle à chaque phrase. C'est quelqu'un qui doit juste faire en sorte que le public s'évade et écoute une histoire. Alors, de temps en temps, elle peut être drôle, à droite, à gauche. Mais et puis, jouer le texte des autres aussi.
Ce que vous dites aussi, c'est que vous n'avez plus envie de faire rire à tout prix. Hein. Vous n'avez plus à traquer la petite phrase qui fera mouche, quitte à toucher un public plus restreint, quitte à être moins célèbre aussi.
Oui, 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 parce que ça... j'ai envie de plus de paix. Je trouve que j'ai eu une vie très violente, très intense. C'était un traumatisme d'être célèbre à 20 ans.
Quelle drogue est-ce que ça a été ?
Ça, oui, c'était une drogue incroyable. J'ai adoré être célèbre. Je n'allais pas à l'étranger parce qu'on ne me reconnaissait pas à l'étranger. Et non, non, mais je paniquais. Je me confondais avec mon personnage public et je n'étais bien que quand j'avais le regard des gens.
Il y avait Pierre, il y avait Palmade, quoi.
Ah là là, c'était le même et je marchais très lentement dans la rue pour qu'on me reconnaisse. Je prenais la table au restaurant la plus visible.
Vous faisiez des entrées.
Bien
sûr.
C'était incroyable. Comme ça a pu me droguer cette célébrité. Et puis j'en suis revenu. Ça fait bien 10 ans maintenant. Et maintenant, voilà, je voudrais que mon art, ça soit un artisanat. Et puis je vais faire mon métier de comédien. Et puis, on sort un peu de l'hystérie du showbiz. Et puis, à se demander si on est le numéro un, si on est ringard, si on est has-been. Si je suis un comédien classique, j'ai pas à me demander dans quel classement je suis. Voilà.
On va en parler de tout ça, évidemment. Juste après, un titre qui a offert sourire, j'espère. C'est une de mes chansons préférées de Charles Aznavour. Je me voyais déjà. En 1960, vous êtes sur France Inter avec Pierre Palmade. Vous écoutez Boomerang et on est vendredi.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte. Pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entré sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors c'est facile, on est quelque part entre Calimero, l'albatros et le courtisan repenti de la cour de Louis XIV, avec son air d'oiseau moqueur, c'est son cheveu juvénile, son sourire tantôt charmeur, tantôt timide. Il y a quelque chose du boy scout romantique qui, à la nuit tombée sous les trompes d'eau, quitte son camp de louveteau sur la pointe des pieds pour écrire des poèmes érotiques au bord d'une falaise à la lueur de sa lampe frontale, avec son pull beige et sa barbe de 4 jours que Catherine Yégel, Mathilde dit, lui a conseillé de porter parce que ça lui irait bien. Pierre Palmade, invité de Boomerang ce matin pour « Dites à mon père que je suis célèbre ». Votre père, quel genre d'homme est-ce que c'était? Tiens, puisqu'on parle de lui.
C'est un médecin accoucheur, un obstétricien. Il paraît qu'il a été très drôle, qu'il passait son temps à essayer de faire rire les autres. Il paraît que j'ai ses mimiques, on a les mêmes mimiques, m'ont dit des collègues à lui. Et il adorait ses enfants.
Mais c'est son absence pour autant qui n'a cessé de vous hanter, Pierre.
Ah oui, il adorait tellement ses enfants. On a tellement joué au train électrique ensemble. Quand il est mort, quand j'avais 8 ans, voilà, j'attends son retour. Ça fait maintenant 42 ans que j'attends son retour.
Vous le faisiez rire, vous?
Oui. Mais oui, c'est ça. Ça me manque. Il me dit, mais c'est toi qui as trouvé cette phrase? Et quand je le faisais rire, j'étais fier. J'avais 7, 8 ans. Et je sortais déjà des petites phrases d'enfant, hein. Et il était fier de moi. Mon Dieu, la fierté de son père. Qu'est-ce que ça manque?
C'est avec lui que vous avez découvert Jacqueline Maillot?
Non. C'est avec ma grand-mère paternelle, j'ai découvert au théâtre ce soir, et quand j'ai vu Jacqueline Maillan, pareil, je me suis senti moins seul au monde.
Qu'est-ce qui faisait la spécificité de son jeu à Jacqueline Maillan pour vous? Qu'est-ce qui la rendait unique?
La rapidité de sa pensée. Elle fait partie de ces rares gens qui sont, vous savez, en 78 tours, alors que tout le monde est en 45 tours. C'est des gens, c'est comme De Funès, Florence Foresti, Muriel Robin, ce sont des gens qui vont très vite, qui peuvent dire 10 mots, pendant que vous, vous en dites que 2. Et ils font des commentaires à la marge, des mimiques, et ça c'est fascinant. Jacqueline était la reine de ça, Jacqueline Maillan.
Il y a une phrase qui m'a marqué dans le livre, Pierre, c'est quand vous dites « je suis un inculte ». J'ai un rapport ambivalent aux livres, aux pièces et au patrimoine littéraire, car j'ai pas envie de savoir que des gens ont écrit avant moi. J'ai un problème avec la lecture, j'y prends pas plaisir. Ça m'a étonné.
J'avais envie de tout inventer. J'avais envie d'inventer les dialogues entre amoureux. Je pense que si j'avais beaucoup lu, j'aurais pas osé écrire. Maintenant, ça change. J'ai envie de me cultiver, de jouer même des textes des autres. Mais je me cultivais en dialoguant avec les gens. C'était ça ma culture. J'adorais comprendre qui était l'autre.
C'est la culture, ça, le langage, le goût des mots.
Oui, mais pas celle du livre, pas celle du passé, pas celle du... J'avais vraiment envie d'imaginer, de rêver que personne n'avait écrit avant moi.
Pierre Palmade, dans quelle mesure diriez-vous que les mots vous ont soigné, en fin de compte?
Parce que le mot juste est très important. J'adore, je tiens ça de ma mère, j'adore mettre le bon mot sur la bonne émotion, et la recherche du bon mot, pas le mot drôle, hein, mais le juste mot, c'est ma quête quotidienne.
Merci pour ces justes mots. Pierre, merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Dites à mon père que je suis célèbre vient de paraître aux éditions HarperCollins. C'est écrit avec la collaboration d'Éric Libio. C'est assez désarmant de sincérité. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Boomerang. Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Billot, Pierre Martinery, Paul Guillot, Jean-Baptiste Dibert. À lundi, les amis. Tout de suite, les médias. Dorothée Barba, juste après ça.
This cold stairs can never put the fear in me. What we built here is godly. They can't gentrify the heart of kings. Let's just not talk about it. If I make a move, you're coming with me.
What about the love? Coming with me. What about the neighbor? Coming with me. What about the sea? It's coming with me. The people that you came with, coming with me. What about the love?
James Anderson .Paak sur France Inter. Tout de suite, c'est l'heure des médias. Dorothée Barba, que je voudrais remercier et féliciter pour cette si belle semaine.
Merci à vous, Augustin. Et on retrouvera Sonia Devillers.
Qui revient de Papette.
Voilà,
à mon
comme
avis,
d'hab. Toutes ses vacances, c'est à Papette. Et donc, elle revient lundi.
On va en parler, je vous embrasse.
Moi aussi. Bonne journée,
Salut.
Augustin.